Soyez les bienvenus ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence. Aujourd'hui, j'accueille un comédien, ancien pensionnaire de la Comédie Française, formé au cours Florent avec l'acteur Francis Huster, puis à l'école des Amandiers avec Patrice Chéreau. Vous êtes passionné par le théâtre, le cinéma, la télévision, et également par la radio, et vous enregistrez des livres audio, et vous faites régulièrement des lectures publiques. Et vous jouez aussi Mathias Barneville dans la série bien connue en France, sur France 2. 10% en est le titre. J'accueille aujourd'hui Thibaut de Montalembert. Bonjour.
Bonjour.
Et cette région Normandie où est également diffusée cette émission de ce matin, vous aimez y venir en vacances ?
C'est un endroit que j'ai fréquenté quand j'étais enfant, adolescent, adulte. C'est un endroit où je vais pas régulièrement, mais bon, moi je suis mayennais, je suis né à Laval, donc c'est pas très très loin.
Et en vacances, vous affectionnez particulièrement le côté mer ou le côté terre ?
Le bord de mer, parce que j'ai une passion pour la mer. Je suis d'une famille à moitié irlandaise, donc un peu celtique sur les bords. Mon grand-père était marin. Et la plus proche de Paris, c'est la Normandie. Donc ça m'arrive assez fréquemment de partir vers Deauville, Honfleur et tous ces coins-là, Étretat. Mais profondément, moi, c'est la Bretagne.
Et vous êtes issu d'une famille de la noblesse d'épée, l'une des plus vieilles familles de France.
Ben oui, ça, alors là j'y suis strictement pour rien, mais il se trouve que c'est comme ça. Dans mon livre, il y a cette phrase qui est « Je porte le fer et le fer me porte », F-A-I-R-E. Or, c'est la traduction française de la devise familiale qui est « Ferrum ferro, ferro ferror ». Je porte le fer, F-E-R, et le fer me porte. Je porte l'épée et l'épée me porte. J'ai modernisé la devise en faisant le faire, l'action me porte. Je porte l'action et l'action me porte. Puisque on parlait tout à l'heure du général Duvillier, j'ai vu d'ailleurs que dans son livre, la première citation qu'il met est une citation de Malraux qui dit « L'homme est ce qu'il fait ».
Thibaut de Montalembert, sur vos épaules pèsent 10 siècles de christianisme. Quelques mots à ce sujet.
Aujourd'hui, à l'âge que j'ai maintenant, ça fait partie de moi totalement, ça fait partie de mon histoire et de ce qui me constitue. Mais ce qui me constitue n'est pas forcément ce que je suis. Je pense que cette famille a eu un poids, mais elle a eu aussi des tas de richesses qui m'ont constitué. Cet ancrage dans l'Église, dans le catholicisme, qui est très fort depuis le début, puisque la famille remonte à la première croisade, qui a rencontré ce que j'appelle moi une inquiétude métaphysique, qui est quelque chose qui m'a habité depuis toujours et qui m'a poussé à une recherche qui est permanente, enfin, qui ne me quitte pas, qui ne m'a jamais quitté. Même quand j'ai voulu la quitter, elle ne m'a pas quitté.
Et c'est aussi la question que beaucoup se posent, hein. Que faire de sa vie ?
La question fondamentale du sens de la vie, du sens de ce pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, quelle est la direction de notre histoire humaine, ça c'est quelque chose qui me hante toujours. Ça, plus aussi la notion de, sans doute, de service. Et qui bizarrement peut se comprendre quand on consacre sa vie ou à Dieu, ou quand on consacre sa vie comme militaire, d'une certaine manière, on est au service de quelque chose, de la nation et tout ça. C'est un peu plus délicat quand on parle d'un acteur, mais moi, personnellement, j'ai toujours considéré mon métier, même à travers ses formes les plus superficielles, comme étant un endroit, un lieu de service.
Vous êtes acteur, aussi auteur de ce livre « Et le verbe se fait chair ». En est le titre paru aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi ce lien et cette passion pour l'incarnation qui est présente aussi dans ce titre ?
C'est assez curieux cette histoire d'ailleurs, parce que mon bouquin qui s'appelle « Et le verbe se fait chair » m'a permis de faire le point de là où j'en étais. Je suis à la moitié de ma vie, enfin un peu plus maintenant. Ça m'a permis de faire le point de là où j'en étais et de comprendre finalement quelles avaient pu être les raisons de certaines choses. On traverse des choses dans la vie et on se dit « mais pourquoi j'ai traversé cette chose-là ? Pourquoi j'ai choisi cette voie ?» Ou pas forcément choisi d'ailleurs, les trois quarts du temps, c'est un peu la vie qui choisit pour vous. On se retrouve dans des choses et finalement on se dit « bon, j'ai traversé telle expérience, telle chose, je ne sais pas très bien pourquoi ». Et puis, quand on regarde avec de la distance, tout d'un coup, le puzzle se met en place et tout prend sens d'une certaine manière. C'est Bossuet qui dit « Dieu écrit droit avec des lignes courbes ». Et pour voir la route qui est courbe, il faut prendre de la hauteur.
Un puzzle ou un vitrail que l'on comprend bien ou que nous voyons mieux lorsque nous sommes à l'intérieur d'un édifice ?
Un vitrail, plutôt, c'est beaucoup plus beau, un vitrail. C'est une chose qui est un peu un dada, mais je suis convaincu, persuadé que l'incarnation, le fait de s'incarner dans un corps humain, dans cette matière qui est lourde, qui est pesante parfois, qui peut être sombre, c'est que je pense que le travail fondamental de chacun, c'est de transformer cette matière en lumière, donc de devenir lumineux. Mais lumineux, quand je dis ça, c'est pas une figure poétique, c'est une réalité physique pour moi. On a un travail à faire qui se fait au long de la vie, qui est un travail de transformation de la matière vers la lumière, donc un vitrail.
Et nombreux sont les vitraux qui illustrent la scène de la nativité. Que représente pour vous cette période de Noël célébrée particulièrement par les chrétiens ?
C'est un moment où, de façon consciente ou inconsciente, quelque chose en l'homme se tourne, se positionne par rapport à une autre dimension. Et je pense que c'est un moment où quelque chose s'ouvre dans l'humanité. Il y a des gens qui ne vont plus du tout à l'église, qui ne sont pas croyants, qui passent leur Noël dans les boutiques, etc. Mais il y a quand même un moment où ils vont se retrouver ensemble, ne serait-ce que pour manger. Il va y avoir cette communion, ce être ensemble. Et dans ce être ensemble, il y a une ouverture qui se produit. Et cette ouverture est aussi bien psychologique, physique que spirituelle, à leur insu même.
Et qu'en est-il lorsque vous abordez cette question de la religion par rapport au monde que vous côtoyez, qui est le monde de la télévision, du cinéma ou du théâtre ?
Il y a 30 ans, quand dans mon métier, par exemple, on parlait religion ou spiritualité, pour être plus large, on entendait des ricanements, on entendait... c'était encore les 30 glorieuses, tout le monde... Il n'y avait pas de problème, tout le monde gagnait sa vie largement... Tout allait bien dans le meilleur des mondes, et finalement la spiritualité, c'était une espèce de chose qui appartenait à l'Antiquité. Or, aujourd'hui, les choses ont radicalement changé par rapport à ça.
Et en quoi ont-elles changé ?
Je sens que ça interpelle. Ça interpelle parce que tout le monde se rend compte que ce qu'on nous a vendu pendant très longtemps comme étant le nec plus ultra est en train de se casser la gueule dans tous les sens, et que les gens ont peur. Alors quand on a peur, c'est très dangereux, parce qu'un animal qui a peur devient dangereux, et on le voit bien autour de nous. Ça génère des extrémismes, que ça soit religieux ou politique, ça génère aussi une ouverture, et ça génère aussi, et ça on n'en parle pas assez, de la solidarité. Bien sûr que l'égoïsme est une donnée de la nature humaine, mais le besoin de partager, le besoin d'être ensemble, de comprendre ensemble, est aussi quelque chose qui fait partie de la nature humaine, et je trouve qu'il y a de plus en plus d'expressions de ça autour de nous.
Vous vous êtes posé la question, cette question comme un choix de vie. D'ailleurs, vous en parlez dans ce livre qui a pour titre « Et le verbe se fait chair », paru aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes posé la question entre être acteur et être prêtre. D'ailleurs, nous en avons parlé en off tout à l'heure ensemble. Parlez-nous de ce choix de vie qui a aussi été le vôtre.
Oui, est-ce que le choix était difficile ? Encore une fois, je pense que la vie m'a conduit là où je devais être. J'avais ce double désir, vers l'âge de 9 ans d'ailleurs, les deux, à la fois de me consacrer à Dieu et à la fois de devenir acteur. Pendant longtemps, ce que je pensais être l'appel à la vocation religieuse, je l'ai rejeté parce que ça me faisait une peur bleue. Et à l'âge de 18 ans, un beau jour, j'ai dit... Ok, fiat, j'accepte, je vais y aller, je vais devenir prêtre. Alors j'ai cherché, je voulais... Très vite, j'ai décidé de rentrer plutôt dans un ordre religieux, mais je pensais pas du tout à un ordre cloîtré, je pensais à un ordre religieux tel que les bénédictins, enfin, un ordre qui avait une action dans le monde, et un rapport avec le monde.
Les moines ou les moniales dans la ville, appelés aussi les fraternités monastiques de Jérusalem, présentant voilà. Saint-Michel.
Voilà, exactement, que j'ai été rencontré d'ailleurs. Et puis il s'est trouvé que j'ai eu un accident de voiture assez grave et que j'ai eu besoin de me refaire une santé. J'avais dit d'accord, mais moi je vais aller dans un monastère. Et je suis arrivé à Aigbel, à la trappe d'Aigbel, qui est à côté de Montélimar. Et je suis tombé amoureux de cette vie-là. Et j'ai voulu rentrer à Aigbel. Alors je suis resté 4 mois, 2 fois 2 mois. Puis on m'a dit, écoute, repasse ton bac que j'avais raté. Donc repasse ton bac, tu reviens aux vacances si tu veux, et si ta décision tient toujours dans un an, ben voilà, tu rentreras comme regardant, ce qu'on appelle. Donc je suis rentré à Paris, j'ai repassé mon bac par correspondance, et là j'ai commencé à remettre en question un peu toute cette histoire. J'étais plus si sûr de moi, et j'ai rencontré celle qui a été ma femme, donc que j'ai épousée très vite, hein, puisque je me suis marié, j'avais 20 ans. Donc ça a réglé la question de la vocation religieuse.
Et là, dans ce choix de vie, Thibaut de Montalembert, vous avez fait un choix qui est encore le vôtre aujourd'hui, être et devenir acteur de théâtre, de cinéma, et aussi pour des séries à la télévision comme 10%.
Un de mes maîtres en tant que comédien a été Louis Jouvet, alors que je n'ai pas eu le bonheur de rencontrer physiquement, mais qui a écrit suffisamment de livres autour de son métier, et plus que son métier, parce que Jouvet était un mystique. Enfin, Jouvet était quelqu'un qui était hanté par la question religieuse, spirituelle. J'aurais adoré voir son Tartuffe, d'ailleurs, parce que de ce point de vue-là, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est quelqu'un qui a fait partie des groupes de Gurdjieff pendant une certaine période de sa vie. Il avait cette conscience que le comédien est au service de l'auteur, mais au service aussi du spectateur, et qu'il est traversé par quelque chose. L'acteur est traversé par quelque chose. De même que le prêtre est traversé par quelque chose.
Par quelque chose ou par quelqu'un, Thibaut de Montalembert ?
Je pense que nous, par exemple, dans la civilisation chrétienne, il y a une chose qui est, je trouve, très handicapante, c'est de dire Dieu au masculin, c'est une première chose. Et quand on dit Dieu, pour les trois quarts des gens, et je suis gentil quand je dis les trois quarts, la première image qu'on a immédiatement et instinctivement, c'est un vieux bonhomme avec une barbe blanche. C'est évidemment pas ça. Donc quand je dis quelque chose, je dirais plutôt traversé par cela qui est. C'est tout.
Et ça rejoint le nom que Dieu donne à Moïse lorsque Moïse lui pose la question sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que je vais dire au peuple? Comment t'appelles-tu? Et Dieu de dire je suis. Et pour les personnes qui ont besoin d'un moyen mnémotechnique et qui sont matheux, il suffit de penser à Pi, qui est donc 3,14. Et donc on trouve ce nom au chapitre 3 de l'Exode, verset 14.
Ego sum qui sum. Oui, absolument. Et je pense que effectivement, là où les deux fonctions sacerdotales et celles du comédien se rejoignent, c'est dans la présence. C'est dans la présence, c'est-à-dire que le comédien parfois, brièvement, fait l'expérience de la présence ici et maintenant, et que quelque part le prêtre tend toute sa vie à faire de cette présence une réalité au quotidien.
Une incarnation. Et vous incarnez un rôle, celui de Mathias Barneville dans la série 10% diffusée sur France 2. Vous incarnez l'agent le moins souriant, le plus âpre au gain, le plus imbu du pouvoir de ce monde de filou. C'est pas du tout le visage que vous donnez, en tout cas que j'ai de face à moi pour cette interview Tendance Confidence, Thibaut de Montalembert.
Complètement un rôle. Alors après moi j'ai cette théorie qui est que l'homme, chaque homme, nous tous, l'humanité, est composé, mettons, de 5 couleurs. Voilà. Ce qui fait la différence entre vous et moi, c'est le dosage. Votre dosage est unique par rapport au mien. Il n'y a pas un dosage qui se ressemble. Mais les couleurs sont les mêmes. C'est ce qui nous permet de nous comprendre. Quand moi je joue l'avare, le cid, ou le phèdre, ou etc., vous pouvez comprendre les sentiments qui sont exprimés et que j'exprime parce que vous les ressentez. Donc moi, quand je prends en charge un personnage, je vais regarder comment il est constitué, quels sont ses travers, parce que c'est le plus souvent avec ça qu'on travaille, ce sont les travers du personnage finalement qui sont les plus intéressants ou les plus en termes de fiction. Donc je veux dire, quand je travaille l'avare par exemple, je vais chercher en moi quel est ce que je peux avoir d'avaricieux, ce que je peux avoir de replié sur moi, d'égoïste, etc. Et je vais l'hypertrophier et je vais le mettre au service du personnage.
Mais qu'est-ce qui vous passionne autant dans ce métier d'acteur que vous continuiez à l'être aujourd'hui ?
Ce métier me passionne parce que c'est un métier qui permet d'explorer la nature humaine. On ne peut pas jouer un personnage si à un certain endroit on ne l'aime pas. On doit trouver quelque chose à défendre, ne serait-ce que la part d'enfance qui a un jour habité quelqu'un qui est devenu monstrueux. Cet homme qui est devenu monstrueux, mais c'est des gens qui ont été des enfants, qui ont sauté sur les genoux de leurs parents, qui ont dit à leur maman « je t'aime ». Donc il y a eu cette part d'humanité à un certain endroit.
Thibaut de Montalembert, vous êtes l'invité de Tendance Confidence. Je vous ai rencontré, bien sûr, par rapport à la série diffusée sur France 2 qui est intitulée 10%. Et je vous ai rencontré aussi par rapport à ce livre dont le titre est « Le Verbe se fait chair », paru aux éditions de l'Observatoire. Pendant cette émission, Thibaut de Montalembert, vous avez parlé de votre beau métier de comédien, mais aussi d'auteur, de votre foi chrétienne également. Qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise au paradis ?
Je n'aimerais pas forcément qu'il me dise quelque chose, mais j'aimerais voir son sourire.
Podcast by Tendance Ouest.